Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Le premier a eu lieu en 1952, le deuxième en 58. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, les accidents nucléaires de Chalk River.
Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de vos anciens collègues qui sont malades de la même manière, qui ont des cancers ou d'autres maladies?
Sur 116 que nous avons pu rejoindre, il y en a approximativement 80 qui sont malades ou qui sont morts depuis 1952 et puis sont morts de cancer, de maladies que certains médecins ont dit que c'était dû à la radiation.
Un témoignage de ces travailleurs qui ont été contaminés lors des opérations de nettoyage à Chalk River, l'émission Le Point, 11 décembre 1984. 30 ans plus tôt, une confusion autour des commandes de la salle de contrôle allait provoquer le vendredi noir de Chalk River. Le 15 décembre 1952, une perte de contrôle d'à peine une minute, mais des conséquences graves. L'eau et l'air sont contaminés, il faut nettoyer. Des travailleurs et des soldats sont appelés en renfort. Un scénario semblable se répète en 1958, le deuxième accident d'une centrale pourtant réputée ultra-moderne.
Au confluent de la minuscule rivière Chalk et de l'Outaouais profond, à 120 milles au nord-ouest de la capitale canadienne, se dresse un ensemble d'usines et de laboratoires connus sous le nom de Chalk River. À l'origine, quand l'entreprise relevait du Conseil national de recherche, les savants de Chalk River se livraient à des expériences sur la fission de l'atome d'uranium dans le cadre d'un programme conçu à des fins militaires. Depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis la création de la société de la couronne Atomic Energy of Canada Limited en 1952, les recherches effectuées à Chalk River portent essentiellement sur l'exploitation expérimentale des réacteurs atomiques et sur la production d'isotopes radioactifs et du matériel connexe comme les appareils thérapeutiques de cobalt-60 pour le traitement du cancer. Les deux réacteurs de recherche, NRX et NRU, continuent de servir à la mise au point d'innovations techniques et de produire des radioéléments. Le NRU est le plus important et le plus précieux des deux.
Présentation des laboratoires de Chalk River à notre télé, c'était le 13 juin 1965. Alors, pour nous parler de ces deux accidents qui ont marqué l'histoire de ce vaste complexe, mon invité, Jean-Marc Carpentier, il est vulgarisateur, journaliste scientifique, physicien de formation. Il a déjà travaillé sur place à Chalk River alors qu'il était étudiant en physique, c'était en 1973. Bonjour, merci d'être là.
Oui, bonjour.
On dit de Chalk River que c'est le premier accident du genre à l'échelle planétaire. Or, j'ai l'impression que c'est plutôt méconnu de la population. Est-ce qu'en 73, quand vous étiez là, sur place, est-ce qu'on en parlait davantage? Est-ce qu'il y avait encore la crainte d'un accident?
On en parlait, c'était connu, c'était bien connu. Je me souviens à l'époque, moi, d'avoir consulté les documents qui faisaient la synthèse de ces événements-là. Donc, c'était connu du public, c'était connu des gens qui travaillaient là. Est-ce qu'on craignait d'autres accidents? Pas vraiment. Nous, on se promenait à l'intérieur du bâtiment du réacteur. Il y a des gens qui travaillaient autour. On avait l'impression qu'on maîtrisait bien ces machines-là. Évidemment, ce sont des réacteurs différents de ceux qu'on voit dans les centrales nucléaires de production d'électricité parce que c'est essentiellement des machines qui sont conçues pour faire de la recherche, donc avec beaucoup d'éléments supplémentaires, de possibilités de mettre des matériaux, peu importe. Ce sont des machines de recherche très complexes.
Oui, parce qu'à l'origine, parlons justement du complexe de Chalk River qui trouve ses origines dans la recherche pour développer l'arme nucléaire. À la base, c'est ça, là.
Effectivement. Et alors, on a l'impression que le nucléaire, c'est un concept ou c'est une problématique moderne, mais ça fait bientôt presque 100 ans qu'on joue avec ces choses-là. Depuis la découverte, en fait, de la fission de l'uranium par les Allemands en 1939, on était à la veille de la guerre. Les Allemands Otto Hahn, Lise Meitner et Fritz Strassmann ont découvert une chose étonnante, que si on avait de l'uranium et puis qu'on exposait l'uranium à des neutrons, des particules sans charge, et qu'on analysait après ce qu'il y avait dans le bocal, entre guillemets, on trouvait d'autres éléments chimiques qui n'étaient pas là avant. Et là, c'était complètement imprévu, inexpliqué. C'est là qu'on s'est rendu compte que le gros atome d'uranium, 238, 235, qui pouvait casser en 2, en 3, en 4, en 5. Et quand on a un atome plus petit, bien, ce sont d'autres éléments chimiques. Donc ça, c'était une découverte fondamentale en 1939. Et par la suite, évidemment, tout le monde s'est intéressé un peu à ça, sauf peut-être en Allemagne. Les autorités, ailleurs en Angleterre, l'Université Cambridge, en a monté un laboratoire très important pour étudier ça. Aux États-Unis aussi, il y avait des savants européens, Enrico Fermi en Italie, qui est venu aux États-Unis. Et tout de suite, il y a des gens qui ont dit « ça libère de l'énergie ». Qui dit énergie dit destruction, qui dit destruction dit arme de guerre. Oui. Alors, on a regardé ça, puis les Anglais avaient un projet qui s'appelait Tube Alloy, mot de code. Les Américains avaient le projet qui s'appelait pas encore Manhattan, mais qui avait le même objectif. Et les Anglais ont envoyé tout de suite leurs chercheurs au Canada parce que c'est les années 43 où on avait peur que les Allemands envahissent l'Angleterre.
Oui, c'est ça, on est en pleine guerre.
Ah oui, on est en pleine guerre. Et puis, ils se sont installés à l'Université de Montréal, d'ailleurs, dans le nouveau bâtiment qui était non occupé complètement. Et à la conférence de Québec en 43, Churchill, Roosevelt et le premier ministre canadien se sont réunis. Et on a décidé de mettre en commun les efforts pour développer un projet d'armement nucléaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de bâtir une partie des équipements au Canada. Aux États-Unis, ben, il y avait le réacteur sur lequel on travaillait à Chicago sous la direction d'Enrico Fermi. Et au Canada, bon, ben, on a dit, on prend les gens de Montréal puis on les amène un peu en sécurité en arrière. C'est là qu'on a créé le site de Chalk River.
Ouais, qui est un lieu isolé, sécurisé, bien sûr. Hein, mais à l'origine, c'est le laboratoire de Montréal, vous le disiez, à l'Université de Montréal, qui accueille des chercheurs des pays alliés. Je rappelle ici, le physicien Jean-Pierre Bernier, c'était à l'émission Connaissance d'aujourd'hui, c'était le 20 mai 1966.
Docteur Bernier, voudriez-vous rappeler en quelques mots comment l'Université de Montréal s'est trouvée impliquée dans le premier développement de la recherche atomique au Canada?
Il faut dire que notre organisme tel qu'il existe maintenant à Chalk River est un descendant direct d'une partie de l'effort de guerre conjoint des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Au moment où l'on essayait de construire des bombes atomiques, on s'est rendu compte qu'il fallait déménager, pour des raisons stratégiques faciles à deviner, il fallait déménager l'effort britannique à un endroit plus éloigné de l'Allemagne nazie, et le Canada était tout trouvé.
Le Canada était tout trouvé, et oui, on va bâtir ces installations ultra modernes à l'époque. Hein. Il faut dire qu'on était vraiment à la fine pointe, là, au Canada.
Ah oui, parce que au même moment où on a commencé à travailler aux États-Unis avec des moyens phénoménaux. Toute l'histoire du projet Manhattan, c'est gigantesque. Au Canada, on a dit, on va faire notre bout de chemin, nous, et on a commencé à construire un premier réacteur nucléaire, le ZEEP, Zero Energy Experimental Pile. Et ce réacteur-là était construit à Chalk River. Et puis, les Américains ont réussi à démarrer leur réacteur. Et deux ans après, le réacteur canadien commençait à fonctionner. C'était le premier réacteur à fonctionner à l'extérieur des États-Unis. Donc, quand même, un tour de force assez extraordinaire. Et l'idée aussi au Canada, c'est qu'on a commencé tout de suite à travailler sur une filière, entre guillemets, différente, qui était celle qui utiliserait de l'uranium naturel, non enrichi, c'est-à-dire contenant moins d'isotopes fissibles, et l'utiliser de l'eau lourde comme modérateur, parce que pour être plus efficace, on prenait un isotope de l'hydrogène dans l'eau lourde. Et donc, cette filière-là, uranium naturel, eau lourde, on l'a développée ici. Les Américains travaillaient plutôt sur de l'uranium enrichi, ou du plutonium, pour réaliser leurs bombes, ce qu'ils ont réalisé. Le Canada a fourni au début du matériel, du plutonium notamment, qui était produit là-dedans un peu. Et après coup, bon, on s'est dit, les Américains ont dit, bon, la filière uranium naturel, on ne pense pas que ça va être fertile. Le Canada a dit, ben, écoutez, nous, on aime ça, puis on va continuer à développer ça en pensant tout de suite à des applications pacifiques, donc des réacteurs pour faire de l'électricité. On était seulement en 45,
oui,
50.
Tout à fait, mais oui.
Et c'était visionnaire. Et là, on s'est dit, ben, il faut développer tout ça, c'est complexe. On bâtit un gros réacteur de recherche. Ça a été le NRX, le premier, qui a été lancé en 47.
Et dès 47, ce réacteur NRX important. Puis c'est ce même réacteur qui va connaître une défaillance en 1952, en premier accident du genre. Le premier dans le monde, il se passe quoi, ce fameux 15 décembre 1952?
Ben, souvent, c'est toujours un peu le même problème. Un accident nucléaire, celui-là, c'était le premier, mais c'est comme une problème de radiateur sur un automobile. C'est qu'on perd le refroidissement. Quand on perd le refroidissement, il y a une surchauffe. Quand il y a une surchauffe, le métal se met à fondre ou à travailler. Et là, on brise la machine. Mmh. Et c'est ce qui s'est produit à l'époque. Il y a eu une perte de liquide de refroidissement. Et puis, à ce moment-là, il y avait eu un problème de contrôle parce que le réacteur nucléaire, contrairement à la bombe, on veut que ça ronronne, on ne veut pas que ça explose.
Non, bien sûr.
Alors, pour équilibrer toujours les réactions, on a des barres qu'on descend dedans qui absorbent les neutrons supplémentaires. C'est un peu l'accélérateur. Mm-hmm. Et ces barres-là, bon, ben normalement, si on les descend complètement, le réacteur s'arrête. Si on les monte complètement, il s'accélère un peu. Et c'est des systèmes qui permettent de contrôler la machine. Et là, il y a un problème. La barre est mal descendue. Ils sont restés bloqués. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on draine complètement l'eau lourde. Donc, si on draine l'eau lourde, le réacteur s'arrête. Mais il n'est plus refroidi. Alors, c'est un peu ça le problème. Il y a une chaleur latente qui va augmenter. L'eau s'évapore en vapeur, ne refroidit plus. Et là, à ce moment-là, il y a eu une fonte de certaines pièces mécaniques. Et l'eau se dissocie en hydrogène et oxygène. L'hydrogène explose. Et il y a eu, à ce moment-là, la perte de contrôle, même si elle a duré seulement 62 secondes, a été assez dramatique. Il y a eu 4500 mètres cubes d'eau radioactive qui s'est retrouvée dans le fond du bâtiment, une partie à l'extérieur. Donc, beaucoup de contamination, beaucoup de radioactivité. Il a fallu nettoyer tout ça. Évidemment, on ne peut pas entrer là puis rester là. Donc, il faut y aller pas trop longtemps, quelques minutes. Les gens portent des dosimètres, là, des films, en fait, qui marquent le taux d'exposition. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Ça a duré quelques mois. On a tout nettoyé. On a réussi à rebâtir, enlever les éléments. Puis, le réacteur a été redémarré 2 ans plus tard.
Oui.
Il a fonctionné jusqu'en 93.
Oh, oui, tout à fait. Évidemment, quand on pense à un accident nucléaire, hein, tout de suite, pour le commun des mortels, on pense à Tchernobyl. Hein. À quel point l'accident, en tout cas le premier, celui de 52 à Chalk River, a été important? Est-ce que c'est un accident grave?
C'est toujours grave en nucléaire, c'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions. C'est l'ampleur qui fait la différence. À Tchernobyl, on a un grand réacteur qui a littéralement explosé complètement, pas une explosion nucléaire, mais une explosion de gaz. Et le réacteur était construit, si vous permettez l'expression, à peu près dans une grange. Et donc, tout ça a été libéré dans l'espace. Mmh. Alors, c'est ça qui a été grave en termes d'impact sur l'environnement, sur les populations. On avait eu le même accident, même type d'accident en 1979, donc quelques années avant Tchernobyl, c'était l'accident de Three Mile Island,
oui, aux États-Unis,
près de Harrisburg. Et là, c'était le même type de problème, perte de refroidissement, la fonte du cœur du réacteur. Mais là, il n'y a eu aucun impact. Pourquoi? Parce que tout ça était dans un bâtiment de confinement en béton hyper épais et avec une pression négative. Il n'y a rien qui est sorti. Mmh. Alors, donc, c'est ça qui... À Chalk River, par contre, évidemment, on parle d'un plus petit réacteur par rapport à un réacteur de puissance et un accident qui n'a pas duré longtemps. Donc, la quantité... Parce que c'est toujours une question de quantité de matière radioactive.
C'est ça.
Cette quantité-là était minime. On l'a ramassé assez rapidement, on a nettoyé et finalement, il n'y a pas eu d'impact à long terme à l'extérieur du réacteur.
Se dit, quelques années plus tard à peine, hein, en 58, 24 mai 1958, deuxième accident sur un autre réacteur cette fois, le NRU. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci en 58?
Le NRU est un peu comme le NRX, mais plus grand, plus important, plus raffiné, plus complexe, un peu plus gros. C'est un réacteur de recherche aussi. Dans le NRU, on voit déjà le design des prochaines stations Candu du Canada. C'est-à-dire c'est des centrales qui, contrairement aux centrales américaines, qui sont une espèce de bouilloire sous pression à l'intérieur desquelles est le combustible qu'on ouvre une fois ou deux ans pour changer. Les réacteurs canadiens, eux, ont des tubes qui traversent la chaudière, qui n'est pas sous pression. Et ces tubes-là sont pleins de combustible qu'on peut enlever et remettre. Donc, un peu comme on chauffe un poêle. On ajoute une bûche à un bout, on la sort à l'autre bout. Quand elle est sortie, elle est radioactive, on l'amène avec des systèmes de télétransport. On l'amène dans une piscine. La piscine absorbe la radiation et on laisse reposer pendant un certain temps avant d'entreposer. Et là, ce qui s'est produit, c'est qu'en changeant des barres de combustible, on a fait une petite erreur, on a oublié. Quand on transporte ces barres de combustible-là, elles sont très, très chaudes en sortant. Et on les transporte dans des... on appelle des flasques qui sont un peu comme un thermos, avec de l'eau dedans pour les transporter. Et là, on avait oublié de mettre de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, encore une fois, beaucoup de chaleur qui n'est pas absorbée, qui n'est pas refroidie. Et ça s'est mis, on s'est rendu compte, on a essayé de ramener ça, de remettre dans le réacteur, mais la chaleur avait fait en sorte que la grippe de combustible avait ramolli. En laissant la sortir, elle a cassé, une partie tombait à terre. Et cette partie-là, évidemment, était très hautement radioactive. Donc, il y a eu de la radioactivité à l'intérieur du bâtiment. Des quantités moins grandes que pour l'accident précédent,
oui, oui.
Mais qu'il a fallu ramasser, effectivement. Puis ça a été, encore une fois, je pense, c'est 2 mois qu'il a fallu pour tout nettoyer ça, remettre ça en niveau. On a changé des composantes et puis on a rebâti tout ça. Puis le réacteur a fonctionné ensuite jusqu'en 2018.
Donc, une réaction assez rapide des autorités à l'époque pour nettoyer. Il faut dire aussi que dans les années, là on se transporte fin des années 60, hein, en 1969, l'exemple qu'on a ici, on y croyait très très fort à la filière nucléaire au Canada. L'avenir passait par le nucléaire. Un exemple ici, donc la série Les années 80, telles qu'on les imaginait en avril 69, série télé présentée par Jeanne Sauvé.
La matière première d'une civilisation, c'est l'énergie qu'elle peut produire. Avec l'énergie, nous faisons fonctionner les usines, nous chauffons nos maisons, nous faisons voler les avions. Avant l'apparition de l'énergie nucléaire, les pronostics d'avenir de production d'énergie dans le monde étaient plutôt sombres, devant l'épuisement prévu des matières premières.
Tout le monde s'accorde pour dire que, aux environs de l'an 2000, tout le monde sera au nucléaire. Il y a une raison à cela d'abord, c'est parce que, en ce qui concerne le Québec, on aura probablement aux environs de 2000 épuisé tous les sites hydrauliques possibles.
Le Québec tout entier au nucléaire, ça c'était la vision qu'on en avait en 1969. Évidemment, c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Hein.
Non, puis je me souviens du débat à l'époque, Parti québécois, Parti libéral, et puis les péquistes voulaient qu'on aille au nucléaire, les libéraux disaient, bien, écoutez, on va développer ça chez nous, ça fait plus d'emplois. Bon, on connaît la suite de l'histoire. Et le nucléaire était présenté à beaucoup d'endroits comme étant une solution économique, on disait. Certains optimistes disaient même, bah, écoutez, ça va être tellement peu coûteux que ça ne vaudra même pas la peine de mettre des compteurs. On
oui,
sait que le nucléaire, à cause des questions de sécurité et tout, est devenu une filière très coûteuse.
Oui.
Par contre, déjà à l'époque, à toutes les raisons qui favorisaient le nucléaire, on n'avait pas encore celle qui apparaît maintenant, qui est celle de la lutte au changement climatique. Parce que contrairement au pétrole, au mazout, qui fournissent encore presque 80 % de l'énergie de la planète, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre.
Ouais.
Il y a des déchets, il y a toutes sortes d'autres
problèmes. Oui, il y a d'autres problèmes, mais la preuve en est, même dans certains pays d'Europe, en Allemagne, les Verts revoient leur position aujourd'hui, hein, eux qui étaient très opposés.
Moi, j'ai couvert, petite parenthèse, j'ai couvert en 1980 le référendum sur l'énergie nucléaire en Suède. La Suède est un pays très nucléarisé, 75-80 % de l'électricité produite par des centrales. Et en 80, le référendum a été très clair en disant « on va fermer les réacteurs nucléaires d'ici 5 ans. On va aller vers un truc énergie renouvelable et tout et tout ». Bien, 40 ans plus tard, ça ne s'est pas fait, pour des raisons évidentes. Il n'y a pas de solution de remplacement. La France, c'est un autre exemple.
Aussi.
On avait misé beaucoup sur le nucléaire, et là, le président Macron vient de dire on va retourner là-dedans. Évidemment, avec des technologies plus matures, plus sécuritaires, moins chères, qui permettraient d'aller vers cette ressource-là. Donc, à cette époque-là, en 60, début des années 70, c'est les années où j'ai travaillé à Chalk River, en 73, le nucléaire était partout. En Ontario, entre autres, je me souviens, Pickering était en construction, il y avait Douglas Point, toutes les centrales, et puis on a construit Nouveau-Brunswick, au Québec, on a fait Gentilly à l'époque. Donc, le nucléaire avait le vent dans les voies.
Oui, le nucléaire avait la cote à ce moment-là.
Et tout le développement se faisait à Chalk River, toute la conception, l'ingénierie, parce que c'est très complexe au niveau des matériaux, des métaux.
C'est le grand centre de recherche.
Exactement.
Hein. Un mot quand même sur les travailleurs, hein, parce que, bon, ces civils, ces militaires qui ont été appelés en renfort pour nettoyer, je sais que la question a fait l'objet de vifs débats. Qu'en est-il de leur état de santé?
Ben, écoutez, il y a eu des études de fait dans ce cas-là, le suivi. Il y a eu une première étude qui avait été commandée par le ministère des Anciens Combattants à l'Université d'Ottawa en 82 pour faire le suivi des militaires qui avaient été impliqués dans le nettoyage. Ces mêmes militaires-là avaient aussi assisté à des tests au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. À l'époque, on faisait exploser les bombes nucléaires dans le désert, puis les gens allaient là pour regarder ça ou voir les impacts, peu importe. Et il y a eu un suivi là-dessus sur 20, 30, 40 ans pour voir l'impact, les statistiques de morbidité, de décès, et ainsi de suite. Et à l'époque, l'étude de l'Université d'Ottawa avait montré qu'il n'y avait pas eu d'impact significatif. C'est-à-dire, on ne pouvait pas associer des décès au fait d'avoir travaillé, passé du temps à Chalk River ou ailleurs. Ça, c'était chez les militaires.
Mmh, oui. Par contre, dans le cas des civils, là, plusieurs vont affirmer qu'ils ont souffert de cancer. Les militaires seront indemnisés. Il y aura des compensations. Officiellement, en fait, c'est une reconnaissance hein, pour service rendu. Alors que dans le cas des civils, ça va prendre du temps avant qu'ils reçoivent une forme de compensation.
Beaucoup.
Là.
Parce qu'on prenait pour acquis qu'il n'y avait pas d'impact spécifique. Par contre, il y a eu des pressions, tout ça. Et finalement, il y a quelques années, 2-3 ans, il y a eu un programme d'indemnisation où on a donné 22 millions de compensation à quelques centaines de travailleurs qui avaient été plus ou moins près des activités nucléaires à Chalk River.
Ouais. Qu'est-ce qu'on retient au final de ces deux accidents? Est-ce que ces accidents, ce qui s'est passé à Chalk River, donc ça nuit au développement de la filière nucléaire au Canada, avec le recul?
Non.
Non?
Non, parce que c'est des accidents dans un laboratoire où on manipule des choses plus complexes, où on a des réacteurs expérimentaux qui ne sont pas construits strictement en fonction de la sécurité d'abord, mais plutôt de pouvoir jouer avec, changer des configurations et tout et tout. Par la suite, il y a eu les réacteurs construits qui ont fonctionné pendant des millions d'heures cumulatives et puis qui n'ont jamais eu d'incident ou d'accident réel au Canada ou encore dans la presque cinquantaine de réacteurs qui ont été vendus dans le monde de Candu.
Les fameux Candu, là.
Oui, parce que c'est toujours cette même filière-là qui a été développée à Chalk River avec de l'uranium naturel refroidi à l'eau lourde qui ont été commercialisés un peu partout dans le monde.
Oui.
Depuis quelques années, par contre, évidemment, il y a un problème de conviction politique, entre guillemets. Et puis là, on est un peu dans un no man's land quant au développement de l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer? On se dirige vers des technologies de réacteurs modulaires plus petits, des réacteurs qu'on appelle fail-safe ou qui ne peuvent pas avoir d'incursion de température comme ça parce qu'à cause de leur géométrie, ils sont trop petits, moins concentrés, ainsi de suite.
Mais il y a la question du stockage aussi, des déchets nucléaires, qui pose toujours problème.
Mais encore là, la question des déchets, si on le compare à la question des gaz à effet de serre, encore une fois, on parle d'un risque. Qu'est-ce que le problème du déchet, c'est qu'on l'entrepose puis on dit qu'il y a peut-être une chance X sur un million que ça remonte à la surface dans tant d'années et que ça pose des problèmes. Comparé à ça, la production de CO2, c'est pas un risque, c'est une occurrence, c'est un impact real-time.
Oui,
c'est-à-dire à chaque jour où on brûle un hydrocarbure, il y a du CO2 qui s'en va en haute atmosphère et qui commence à avoir un impact sur l'environnement. Alors là, on compare deux choses qui sont de nature complètement différentes. Un risque avec un impact.
Mmh. En tout cas, c'est un vaste débat.
Et c'est un débat qui va revenir, qui n'est pas clos.
Ah non, tout à fait. Ça animait la classe politique, vous le disiez, hein, dans les années 60 et 70 et 80. Puis ça revient, bien sûr, avec la question des changements climatiques. Mmh. Mon invité, je rappelle, Jean-Marc Carpentier, il est journaliste scientifique, vulgarisateur, physicien de formation. Il a déjà travaillé justement à Chalk River, en Ontario, alors qu'il était étudiant à l'époque, étudiant en physique en 1973. Merci d'avoir été là.
Je vous en prie.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier là-dessus. Bonne soirée. À bientôt. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.